Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton.
À l'occasion du 450e anniversaire de la naissance de Shakespeare, France Culture s'associe aux événements organisés tout au long de l'année 2014 par la Société française Shakespeare. Pendant la semaine d'ouverture de cette année Shakespeare et au moment où le congrès international Shakespeare 450 se déroule à Paris pendant toute cette semaine à l'Odéon Théâtre de l'Europe, France Culture vous propose d'écouter des extraits du livre que Peter Brook vient de consacrer au grand dramaturge anglais.
Grâce au théâtre, grâce à ce qui se passe quand on répète le travail direct avec des gens, et grâce à ce qui se passe quand on est devant un public, grâce à cette nudité et donc cette possibilité de voir plus clair, on voit les contradictions. On ne peut pas être dans cette zone et en même temps fermer les yeux à la richesse de la vie. Et la richesse de la vie contient les contradictions. On ne peut qu'accueillir avec joie ces contradictions parce que les contradictions créent les conflits, les rencontres sans lesquelles le théâtre est obligatoirement ennuyeux.
En direct du studio 114 de la Maison de la Radio. La qualité du pardon, réflexion sur Shakespeare de Peter Brook. Aujourd'hui, cinquième et dernière émission, à propos de Prospero. Texte dit par Godefroy Segal, musique improvisée Julia Robert, réalisation Claude Guerre.
Confie la parole de Peter Brook à un jeune acteur, auteur, metteur en scène, Godefroy Segal, qui dirige son travail théâtral du point de vue de l'acteur qu'il ne cesse d'être et dans la foi des textes. Admirateur de Peter Brook, lecteur assidu de son enseignement, pratiquant l'art de la scène d'après L'espace vide, le grand livre du metteur en scène anglais, il est pour moi le résonateur idéal des pages de La qualité du pardon, le livre de réflexion sur Shakespeare que publie Peter Brook et que France Culture a choisi de faire entendre à ses auditeurs.
Parmi les mots les plus connus de Shakespeare figure « quality of mercy ». La qualité du pardon. Mais avant même d'approcher ces deux mots, qualité et pardon, je voudrais revenir à sa dernière pièce, La tempête. Demandez à n'importe quel amoureux de Shakespeare s'il peut se rappeler le dernier mot de sa dernière pièce. Il pourrait peut-être s'agir du dernier mot créatif qu'il écrivit. Le dernier mot de La tempête est « libre ». Il est intéressant de penser que tout le mouvement de Shakespeare, pour essayer de comprendre, pourrait l'avoir conduit à terminer sa dernière pièce avec un personnage, Prospero lui-même, disant au public « Laissez-moi libre ». Mais qu'est-ce qui précède ces mots ? Prospero vient de dire « Ma fin est désespoir ». Cela aussi pourrait être une fin, pourquoi pas ? Mais en fait, lorsque Shakespeare écrivit ces mots, il avait quelque chose à ajouter qui lui paraissait essentiel, car la phrase continue avec une réserve. « À moins que la prière ne vienne à mon secours. » Si nous choisissons une lecture naïve, très école du dimanche, de ces quelques mots, nous tombons dans une horrible banalité. Si Shakespeare avait fait de ça son épilogue, il aurait quitté le misérabilisme de « mourir dans le désespoir », en mettant à la place un mot vague, pieux et totalement disqualifié. Prière. Un mot sur le sens duquel il n'est pas deux personnes qui peuvent s'entendre. Mais Shakespeare nous dit « Stop ! Écoutez, la prière doit être comprise pour ce qu'elle est vraiment. Je ne vous parle pas, nous dit-il, d'une prière disant juste « Donnez-moi ceci ou cela, s'il vous plaît, faites ça pour moi. » Prospero dit qu'il a besoin d'une prière si perçante qu'elle s'élance même à l'assaut du pardon. Quel maître zen donne à jamais pareille énigme à ses élèves ? Existe-t-il un koan qui nous lance plus de défis que chaque élément de cette phrase ? Une prière si perçante. Certains pourraient passer de nombreuses années dans un monastère pour tenter de comprendre ces mots. Qu'est-ce qu'une prière perçante qui perce et même qui attaque ? Comment une prière pourrait-elle attaquer ? Et attaquer quoi ? Elle attaque le pardon. Shakespeare, avec fermeté, place côte à côte le pardon et l'attaque. Et de ce paradoxe incompréhensible, clair, et pourtant obscur, qui arrête l'esprit, vient une résolution toute simple, que les crimes, un mot très fort, sont pardonnés et que de cette indulgence peut naître la liberté. Les thèmes abordés. Les thèmes abordés par Shakespeare ne se comptent pas, mais son écriture est constamment dominée par la question de l'ordre et du chaos et de l'ordre. Et qu'est-ce que le chaos ? Quelle est la place du chaos ? Qu'est-ce que l'ordre ? Qu'est-ce que nous entendons par ordre ? Qu'est-ce que l'ordre peut nous apporter ? Quelle est sa relation avec le chaos ? Ces thèmes-là sont peut-être ceux qui nous touchent de plus près, de l'extérieur et à l'intérieur, à ce moment de notre histoire. Nous sommes au-dedans du chaos, nous ne pouvons pas le nier, et le chaos qui nous entoure est le même à l'intérieur de nous, et au fond, chacun l'admet, je crois, très simplement. Nous sentons un besoin profond, et quelquefois désespérant, d'ordre. Et cependant, nous vivons un moment où peut-être nous voyons avec justesse que nous ne pouvons suivre le sens apparent ni de l'un ni de l'autre. Car le chaos ne peut être seulement assimilé à un désastre absolu. Le chaos est quelque chose de plus qu'une totale catastrophe. Le chaos et la catastrophe, ce n'est pas exactement la même chose. Et l'ordre de son côté est constamment trahi. Chaque prophète, chaque leader qui s'est levé publiquement pour essayer de nous conduire vers un ordre a toujours trahi cet ordre pour le remplacer par un nouvel ordre, inventé. Nous désirons l'ordre, et pourtant nous commençons aujourd'hui à éprouver plus de respect pour le chaos. Nous ressentons énorme, dynamique, le pouvoir des forces quand on les libère. Et nous pouvons aimer et respecter l'extraordinaire qualité de l'immobilité que même une bougie peut exprimer, et sentir aussi que le chaos du feu n'est pas en contradiction avec la compréhension de la flamme. C'est le thème qui court à travers toute l'œuvre de Shakespeare. Dans un grand nombre de pièces qui parlent de guerre, de conflit, d'antagonisme, de haine, de meurtre, de jalousie, on voit que la notion d'ordre, la notion de structure, est remise en question et balayée par de terribles énergies. Sans vouloir réduire Shakespeare à une seule signification, ce thème particulier court d'une pièce à l'autre. De fortes sources d'énergie qui s'opposent, conduisent à des conflits dynamiques. Quand nous en venons à la tempête, on voit que cette bataille particulière est clairement dramatisée par Shakespeare à l'intérieur de sa dernière histoire. Avant le début de la pièce, Prospero était un excellent duc, cultivé, sensible, intelligent. Mais ce duc a été jeté dehors, privé de son titre, expulsé de son palais par son frère brutalement. Et le point intéressant ici est que personne ne peut dire « pauvre homme » ou « pauvre duc de Milan ». On ne peut dire qu'une chose, c'est qu'il l'a bien mérité. Pourquoi ? Parce que, homme bien assis dans ses bibliothèques, lisant des ouvrages de spiritualité, étudiant les sciences occultes, Prospero était un individu admirable, romantique, quelque part idéal, et clairement un très mauvais duc. Il n'avait aucune idée de ce qui est demandé à un individu qui occupe cette position. Prospero a trahi l'ordre. Puis son frère, ami de l'ordre, est arrivé. Il a restauré son idée de l'ordre et s'est débarrassé de Prospero, lequel, abandonné sur une barque pourrie, s'est retrouvé sur une île désolée. Brutalement réveillé de son rêve milanais si confortable, il a commencé à voir la réalité sous un nouveau jour. On réduit souvent ce personnage à un vieillard gâteux perdu sur une île. On ne peut pas imaginer quelque chose de plus extraordinaire pour une fille que d'entendre son père lui raconter soudain tout le mystère de son passé. Pourtant, j'ai vu cette grande scène jouée avec une fille qui bâillait comme pour dire au public « Oh non, il n'en finit plus, je voudrais tant qu'il arrête de me raconter toutes ces vieilles choses si ennuyeuses du passé. » Mais si l'on prend garde à ce que nous dit vraiment la pièce, on voit quelque chose de très différent, d'infiniment plus fascinant. Prospero est arraché à son rêve dans des circonstances très dures, très difficiles. Jeté sur une île apparemment nue, il doit tout apprendre d'un autre monde. Il doit tout apprendre du monde des esprits qu'il pensait pouvoir connaître au seul moyen des livres. À présent, il doit le découvrir d'une manière rude, à travers sa propre expérience. Il rencontre des sorcières, des esprits et, en la personne de Caliban, des forces très violentes. Que savons-nous d'assurer à propos de Prospero qui ne soit pas simple spéculation ? Si nous écoutons sa fameuse tirade, où il parle véritablement de sa magie, il se montre très clair. Il ne s'est pas contenté d'apprendre à être un magicien, connaissant quelques trucs pour faire apparaître un peu de nourriture afin que lui et sa fille ne meurent pas de faim, ni d'avoir autour de lui, comme esclaves, quelques elfes et autres lutins qui le serviraient à table et nettoieraient sa cabane. Il dit très précisément que, non content de se livrer à des jeux joyeux avec ses esprits, il est allé plus loin. Il a appris comment ordonner au tonnerre et à la foudre de se produire à sa demande. En d'autres mots, il est entré dans un jeu très dangereux de pouvoir. Et il commençait à exercer ce pouvoir sur les énergies et les forces les plus fondamentales de la nature. Il dit même qu'il s'en est servi comme en un jeu pour ouvrir des tombes et faire se lever des cadavres. On glisse souvent là-dessus. Mais c'est ainsi textuellement que Prospero décrit sa vie. Il a pénétré le chaos des forces primordiales. Il a vu comment un homme peut les dominer, leur commander et devenir une sorte de surhomme, et comment ce surhomme peut prendre sa revanche. atteint le sommet, inquiétant, du développement de l'homme. Il est devenu un magicien. Il a le pouvoir. Il peut se venger de son frère qui lui a ravi son royaume. Il le tient entre ses mains. Il est possible ici de poser la question. Cela veut-il dire qu'il est devenu un homme libre? La liberté, est-ce cela?
If love a sweet passion, why does it torment? If a bitter would tell me whence comes my content? Since I suffer with a pleasure, why should I complain? A grief at my fate, when I know 'tis in vain. Yet so pleasing the pain, so soft is the death that at once it both wants me, and a tickles my heart.
À l'âge de 17 ans, je lus dans un livre de magie que si vous suivez les incantations prescrites, vous pouvez convoquer des hommes armés et des femmes séduisantes. Lorsque je lus ce livre, à 17 ans, je me dis, la liberté c'est ça. Que demander de plus à la vie que de vous asseoir avec un livre, de psalmodier certaines phrases et d'avoir soudain à votre disposition non seulement toutes les femmes que vous désirez, mais des hommes armés pour vous défendre contre des amants ou des maris jaloux. Cela me semblait l'image véritable d'un homme libre. Et sans aucun doute, très habilement, Shakespeare dispose ce piège à l'intention du public, car il nous amène à éprouver une vague admiration pour cette super figure que nous appelons un magicien. Mais dans la tempête, ce n'est pas la fin de la pièce. Ce n'en est même pas le sujet. Au-dessous de l'intrigue, l'ambition, la colère et la vengeance dominent. Trinculo, Stefano et Caliban conspirent pour tuer Prospero. Celui-ci reconnaît qu'il doit abandonner toute magie, noyer son grimoire et briser sa baguette. Ce n'est qu'après avoir fait ce geste qu'il peut franchir une étape entièrement nouvelle. Et cette étape le conduit de la vengeance au pardon. Maintenant, enfin, il peut être un homme comme les autres. Et maintenant, il voit qu'il ne peut pas s'accorder le droit de juger son frère. Tout ce qu'il peut faire est de rendre l'île à Caliban, qui en est à ses débuts dans l'existence avec son propre chemin à suivre, et puis de retourner à sa vie d'avant. Bien que de nom il redevienne duc, il sait maintenant qu'il lui faut avant tout revenir là où il a débuté, à son duché, de Milan, à son lieu d'origine, à son point de départ, comme un homme parmi les autres, comme une simple personne humaine. Ce n'est pas encore là que la pièce s'achève. Il reviendra, dit-il. Il mènera une vie simple et une de mes pensées sur trois sera pour ma tombe. Mais si Shakespeare s'en était tenu là, sans écrire l'épilogue, il manquerait quelque chose. Cela resterait mou, brumeux, vague, incomplet. Et c'est ici que la pièce devient un grand défi à notre compréhension. Il y a l'ordre, et il y a le chaos. Il y a le pouvoir et l'abandon du pouvoir. Il y a l'orgueil et l'humilité. Et cependant, dans toutes ces oppositions, quelque chose n'est pas dit, quelque chose manque profondément. Qu'est-ce qui pourrait tout englober, tout relier? l'opposition terme à terme soulève une question puissante. Or, de cette opposition qui, en elle-même, pourrait durer toujours, car une opposition reste dynamique et ne peut dépasser son propre niveau. Qu'est-ce qui manque pour que cette dynamique permanente, sur laquelle repose toute vie que nous connaissons, puisse être transformée? Quel est l'élément de la transformation qui n'est pas encore présent chez ce Prospero qui a noyé son grimoire, brisé sa baguette, qui est devenu humble, qui retourne à la vie ordinaire, non pas comme un rêveur, mais comme un homme qui s'est trouvé au contact de toutes les structures, de toutes les fibres de la vie, et qui, passé par tout cela, reconnaît qu'il est un homme comme n'importe quel autre homme. Que manque-t-il encore? Je crois que c'est dans l'intention de toucher cette offre incompréhensible faite à l'humanité et qui contient le mot « libre » que Shakespeare propose une prière si perçante qu'elle s'élance à l'assaut du pardon. La pensée n'est pas nouvelle, car il a déjà introduit dans une pièce antérieure cette conviction qu'il existe une certaine force, une certaine qualité que nul d'entre nous ne peut voir, que nul ne peut définir et qui pourtant a la capacité d'apporter une vraie liberté. Il l'appelle « the quality of mercy », la qualité du pardon. C'est avec ces deux mots que je voudrais terminer. Qualité et pardon. Et lorsque quelqu'un essaie de définir précisément ce dont il s'agit, avec des arguments ordinaires, il s'éloigne d'un pas, d'une autre possibilité de compréhension. Qualité, pardon, libre. Et dans cette trinité, l'énigme de Shakespeare.
La qualité du pardon, réflexion sur Shakespeare de Peter Brook. Toute la semaine, vous avez écouté en direct du studio 114 de la Maison de la Radio des extraits de ce texte de Peter Brook qui paraît aux éditions du Seuil dans une traduction de Jean-Claude Carrière. Ce soir, cinquième et dernière émission à propos de Prospero dans La Tempête de Shakespeare, texte lu par Godefroy Segal, musique de Julia Robert, extrait choisi par Catel Guillou, conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière, prise de son Philippe Bredin, Ludovic Auger, assistante à la réalisation Clémence Gross, réalisation Claude Guerre.
Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur le site fiction.franceculture.fr.